When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir sur So Sweet Planet un groupe que j'aime beaucoup, Delgrès, représenté pour cette session de podcast par son chanteur, auteur et compositeur Pascal Danaé, que je reçois pour parler de ce groupe Delgrès et de leur super bon deuxième album, 4 AM, 4h du matin. Bonjour Pascal Danaé et bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour.
Je suis vraiment heureuse de consacrer ce podcast à Delgrès parce que depuis le premier album, depuis la première fois où j'ai entendu ce son vraiment bien particulier, ce groupe m'intrigue. Est-ce qu'il y avait une intention d'intriguer, Pascal, lorsque ce groupe est né ?
Non, disons qu'on avait surtout très envie de faire ce qui nous plaisait, ce qui nous tenait à cœur. Voilà, et comme on a tous des parcours qui nous ont fait passer soit par des musiques, dans le cas de Ravji, par exemple, qui joue le sousaphone. Lui, il a fait des fanfares de rue. C'est un instrument de sousaphone qui vient de la Nouvelle-Orléans. Donc, voilà, dans son cas, il y a cette histoire-là. Dans le cas de Baptiste Bondy, à la batterie, il a joué beaucoup de blues. Moi, à titre personnel aussi, je suis tombé vraiment amoureux du blues il y a bien des années. Et voilà, on s'est retrouvé autour de toute cette esthétique-là et avec notre propre histoire, avec qui on était. Eh bien, on a fait un son qui nous tenait à cœur.
Oui, et alors, en fait, Delgrès a dynamité vraiment les clichés sur les Antillais, sur ce qui vient des Antilles. Et des clichés, il y en a beaucoup ici en métropole. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de votre rapport aux clichés, à ces clichés et à ce positionnement musicalement très singulier que vous avez adopté ?
Ben, je crois que toute l'histoire du groupe Delgrès, et même le nom qu'on a pris, donc celui de Louis Delgrès,
oui,
qui s'était battu, voilà, qui a lutté contre le rétablissement de l'esclavage en 1802. Tout ça, c'est très lié justement à mon sentiment personnel en tant que Guadeloupéen né en France hexagonale. Ce sentiment justement d'être un peu quelque part, sans avoir été victime vraiment du racisme de manière frontale, victime de certains préjugés et de certains stéréotypes comme ça qui ont été portés d'une génération à l'autre. Et donc, quand on se retrouve antillais en France hexagonale, on arrive à plus de 50 ans, on se retrouve encore à devoir affronter des regards un peu particuliers. Donc, cette quête de son, de racines liées à Louis Delgrès. Et donc, dès le premier album, pour moi, c'était une manière d'aller vers quelque chose de libératoire par rapport à tous ces stéréotypes.
Oui.
Et justement, une manière de tordre le cou à tous ces clichés.
Oui, c'est ça. Alors, justement, je vais te demander quand même si tu es obligé de le répéter à chaque interview, mais maintenant que vous avez choisi ce nom de groupe, c'est incontournable. Il faut à chaque fois expliquer qui était un peu plus que ce que tu viens de le faire, si tu veux bien. Louis Delgrès, parce que ce n'est pas par hasard non plus que vous avez choisi ce nom.
Oui, alors Louis Delgrès était un officier métis de Napoléon Bonaparte. C'est quelqu'un qui est né à la Martinique et qui a fait une carrière militaire au service de la Révolution française. Et qui a été fait prisonnier par les Anglais, qui a fait un soldat de son époque, en quelque sorte, et qui était basé à la Guadeloupe en 1802, au moment où Napoléon a voulu rétablir l'esclavage. C'est-à-dire qu'en 1794, la Révolution française abolit l'esclavage, et en 1802, Napoléon décide de le rétablir. Alors, pour des raisons qui lui appartiennent, mais en tout cas, on a donc un Louis Delgrès qui est un combattant de la liberté, qui croit dur comme fer en vivre libre ou mourir, combattant de la Révolution, qui voit arriver 20 000 Français décidés à rétablir l'esclavage. Et alors là, évidemment, il n'a qu'une seule solution, c'est rester fidèle à son idéal de liberté. Donc, il entre en rébellion. Et pendant tout le mois de mai 1802, eh bien, il va lutter contre les Français. Mais évidemment, au bout d'un moment, il est tout de même en sous-nombre. Et il décide, lui et tous ses camarades, donc à peu près 300 personnes, de, en fait, se suicider tous ensemble en tuant le plus de Français possible. Donc, une action, un sacrifice ultime au nom de la liberté, au nom du vivre libre ou mourir. Alors, c'est évidemment quelqu'un qui est, enfin, c'est un héros pour beaucoup d'Antillais, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement méconnu en métropole. Et le truc le plus significatif, c'est que moi, qui suis d'origine guadeloupéenne, je ne connaissais pas son existence jusqu'à finalement très tard dans ma vie. Et je crois que c'est ça encore la chose qui m'a le plus marqué, c'est ma propre ignorance vis-à-vis de cette histoire.
Et comment tu l'as découvert alors ?
Ben en fait, mon père m'en a parlé il y a bien des années, mais mon père m'a parlé de ça d'une manière assez informelle. Il m'a dit « Oh tiens, il y avait un Louis Delgrès qui s'est battu ». Et voilà. Il m'a raconté comme ça cette histoire, et puis je n'ai pas fait plus attention que ça. Mais bien des années plus tard, eh bien, à un moment où justement j'étais dans tout ce questionnement personnel, dire « Voilà, tiens, c'est quand même étonnant d'être encore à avoir à faire face à tous ces clichés, ces stéréotypes et autres. » Je ne le vivais pas très bien. Eh bien, celui d'Elgrès, dont on m'avait parlé comme ça, bah, il est venu m'aider, et il est revenu comme ça. Et j'ai pensé à lui, j'ai dit, mais finalement, on a quand même quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui est mort debout. Hein, on a cette figure comme ça, ce personnage, ce grand homme. Et c'était pas un intellectuel. Parce qu'il y a des grands intellectuels, il y a des grands artistes, il y a des grands sportifs, il y a tout un tas de gens fantastiques. Mais cette figure comme ça, historique, d'un combattant, moi, en tout cas, je la connaissais pas. On n'avait pas de Toussaint l'ouverture, d'après ce que je ressentais. Et c'est en commençant comme ça à retirer le fil et en remontant le fil de la mémoire et en allant piocher un petit peu vers lui que j'ai commencé à écrire les premières chansons de ce qui allait devenir le groupe Delgrès.
Oui, parce qu'en fait, toi, si mes sources sont bonnes, tu es né à Paris, tu ne parlais pas créole. Et en fait, tu fais partie de ces gens qui, en métropole, se retrouvent avec des gros clichés, des grosses étiquettes si tu marches dans la rue, alors que finalement, tu n'es pas né, même si tes parents, eux, j'imagine, avaient cette culture. Mais...
Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé... En fait, mon père est parti en 58 de la Guadeloupe avec deux de mes sœurs. Plus tard, ma mère l'a rejoint en 62 avec le reste de la famille. Et c'est seulement quand ils se sont retrouvés que moi, je suis né, l'enfant du retrouvailles. Donc, je suis né en métropole, j'ai grandi ici. Alors, eux, ils parlaient créole entre eux, ils parlaient créole à mes frères et sœurs. Et puis, moi, ils ne me parlaient pas créole pour ne pas me perturber à l'école. Donc, mais je comprenais, bien entendu, puisque tout le monde me parlait autour de moi. Mmh. Et voilà, donc j'ai grandi vraiment sans me poser aucune question. Pour moi, tout le monde était comme ça. Enfin, bon, je savais que j'avais des copains espagnols, des copains marocains, des copains français. Pour moi, tout ça, on était tous les mêmes. C'est seulement bien après que j'ai compris qu'il y avait un regard, mais le regard qu'on porte un peu sur les immigrés, ceux qui ne correspondent pas à l'image qu'on se fait, l'image que les Français se font de la France, en fait, et c'est qui est une espèce de fantasme en réalité. Et quand on ne correspond pas à ce fantasme, les gens posent des questions. C'est pas toujours de la méchanceté, c'est pas toujours mal intentionné, mais la question, au bout d'un certain temps, avec la répétition, genre, mais t'es d'où vraiment, cette question-là peut commencer à être un petit peu embarrassante.
Oui, c'est ça. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs podcasts sur ce sujet, mais on peut effectivement, avec plein de bonnes intentions, mais ne pas se rendre compte qu'on véhicule des clichés racistes et se dire non raciste et avoir quand même des attitudes qui peuvent mettre mal à l'aise, qui peuvent créer une gêne, voire une souffrance, selon le degré de cliché.
Oui, c'est ça. Parce que c'est pour ça que je précise souvent, c'est pas forcément, c'est vraiment pas mal intentionné. C'est souvent même des gens qui, par ailleurs, sont plutôt... intéressé, c'est une envie des fois d'ouverture, de comprendre, tiens, t'es doux, c'est de la curiosité, plutôt une curiosité saine, mais c'est vrai que quand on vous pose la question 50 fois, au moment où vous dites, apprenez votre histoire, parce que la Guadeloupe, c'est français depuis le 17e siècle, et puis voilà, on peut arriver à un certain ras-le-bol.
Oui, alors on va parler un peu de Delgrès. Est-ce que tu peux nous parler de ceux qui composent avec toi ce groupe et de comment vous vous êtes rencontrés?
Eh bien, on est un trois dans ce groupe Delgrès. C'est ce qu'on appelle habituellement un power trio. Pourquoi power? Parce qu'on joue assez fort quand même, c'est assez proche du rock ce qu'on joue, c'est assez puissant, on appelle ça du hard blues.
Oui, c'est un son puissant. Donc
c'est un son puissant, mais qui est fait avec des instruments un peu particuliers, avec des sonorités qui rappellent un petit peu les Black Keys, ou par moments plutôt le côté un peu mauritanien, Tina Riwen. Donc moi je chante, je joue la guitare dobro qui est assez emblématique du blues. Une guitare avec un cercle en métal, je ne sais pas si les gens connaissent, mais parfois elles sont toutes en métal, parfois c'est juste le cercle du milieu qui fait un peu comme un enjoliveur. Mm-hmm. Et c'est vraiment des guitares très emblématiques du blues. J'utilise beaucoup ça, et puis on a donc une batterie qui est jouée par Baptiste Brondy. Baptiste Brondy est un jeune batteur, un mec que j'adore, que j'ai rencontré au sein du groupe Rivière Noire, pour ceux qui connaissent, avec qui on avait une victoire de la musique en 2015.
Très beau groupe, oui,
et,
aussi.
Ouais, et Baptiste Brondy, c'est pas un détail, en fait, est un Nantais. Et c'est ça qui est assez marrant quand on connaît l'histoire de Nantes. Et vraiment Nantais sur plusieurs générations. Et c'est quelqu'un qui a commencé très très jeune la batterie, extrêmement doué, et qui à l'âge de 17 ans faisait déjà des tournées aux États-Unis, a joué à Memphis avec des groupes de blues. Donc c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et le troisième larron, le troisième élément, c'est, et pas le moindre, c'est Ravji. Et Ravji est quelqu'un qui joue du sousaphone. Alors le sousaphone, c'est un instrument qui, en fait, c'est un gros tuba qu'on voit dans les fanfares de la Nouvelle-Orléans, qu'on voit quand il y a les enterrements et qu'on voit cette espèce de gros pavillon qui est au-dessus de la foule. C'est ça le sousaphone. On appelle aussi sous-bassophone en France. Et c'est un instrument, moi, je voulais absolument qu'il y ait ça dans le groupe parce que je trouvais qu'avec le dobro, qui avait un côté un peu cuivré, un peu boisé dans le son, je trouvais qu'avoir un sousaphone qui faisait cette espèce de son grave, comme une espèce d'appel de la rue, cette espèce d'instrument qui invite les gens à se réunir dans la rue et à marcher ensemble, ben je trouvais que c'était vraiment bien d'avoir ça avec nous. Donc en fait, je voulais avoir l'instrument, j'ai appelé un ami, je lui ai dit que tu connaîtrais pas quelqu'un qui saurait jouer ça, qui est un peu sensible quand même à la fois au truc caraïbe, mais aussi le truc blues et tout, et ben orienté vers Ravji, et je le remercie aujourd'hui encore, parce que c'était vraiment la bonne personne.
Mais il y a beaucoup de gens en France qui jouent de cet instrument ?
Pas beaucoup,
ah oui.
Pas beaucoup parce que c'est un instrument qui est très associé aux fanfares, aux animations. Des fois, vous allez voir des animations de vieux jazz. Alors, c'est souvent des personnes d'un certain âge qui jouent de ça avec beaucoup d'entrain. Mais bon, les jeunes, ils regardent ça en se disant, bon, c'est comme s'ils voyaient quelqu'un jouer du musette avec un accordéon. Ils se disent, oh là là, ça, c'est pas pour moi. Alors, on retrouve ça dans les bandas, aussi dans le sud-ouest. Bref, c'est pas un instrument qui bénéficie d'une grosse cote de popularité. Et puis, il ne fait pas partie de la culture locale. Donc, les gens le regardent un peu comme ça. Il faut déjà s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en Louisiane, le carnaval aux Antilles et autres, pour connaître. Donc, on arrive dans ce trio avec beaucoup d'instruments et beaucoup de choses un peu particulières.
Oui.
Ça, associé au fait que je chante en créole, on se retrouve avec une espèce de construction un petit peu extraterrestre.
J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours jusqu'à Delgrès. Quels sont tes premiers souvenirs de musique dans ta vie, enfant ? Qu'est-ce qui a pu te marquer, t'influencer ?
Oh, la musique a toujours été autour de moi, hein, parce que vraiment, c'est sûr qu'aux Antilles, la musique prend beaucoup de place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une réunion dans laquelle il n'y a pas de musique. Une réunion familiale, une réunion d'amis ou autre. Et la musique, elle sera toujours à un niveau suffisamment fort pour que vous puissiez éventuellement danser si vous en avez envie. Mais ça n'empêche pas de parler. On va parler plus fort que la musique.
On ne baisse pas la musique, on parle plus fort.
Voilà, on parle plus fort. C'est pour ça que je rejoins les anglo-saxons, ils ont ce truc-là aussi, la musique est toujours forte. En France, comme on parle, c'est un peu technique, mais en fait, on a la langue française et se situe souvent au même niveau de fréquence que le chant, mm-hmm. que la musique, ce qui fait que les gens, pour s'entendre, ont besoin de baisser la musique. Alors que les anglo-saxons, ils parlent gna, 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 très fort au-dessus, et
oui.
Donc ça ne gêne pas.
C'est voilà, souvent
donc,
un peu nasal.
Moi, j'ai baigné
là-dedans. Oui.
Voilà, c'est un peu nasal, ce qui fait que la voix, elle passe très très bien. Pour ça, les ingénieurs du son adorent ça, parce que ça fonctionne tout seul. Donc moi, j'étais dans ce bain de musique, mon père qui jouait du violon.
Oui, c'est
soeurs,
ça, j'ai lu ça, ton
chantaient.
Père jouait du violon.
Il jouait du violon, il chantait. C'est un amateur, hein, mais voilà, la musique était hyper importante. Ma mère, elle allait dénicher des disques dès qu'elle pouvait. Elle allait dénicher des 33 tours de trucs dont elle avait entendu parler. Elle adorait ça. Enfin,
Et qu'est-ce qui jouait au violon, ton père?
Plutôt, mon père était né en 1915, donc en fait, il jouait dans un orchestre aux Antilles qui s'appelait l'Orchestre Jeunesse. C'était un orchestre de bal, en fait, qui animait des soirées. Et donc, il y avait au répertoire, il y avait des biguines, des choses comme ça, des trucs assez traditionnels. Donc, à cette époque-là, c'était plutôt biguine. Et puis, lui, il chantait et il jouait plutôt des chansons de charme. Donc, tout ce qui est Tino Rossi, ce genre de trucs. Donc plutôt des mélodies, des trucs. C'était plutôt un charmeur, mon père. Voilà. Il avait une voix très douce, comme ça. Il était vraiment amoureux des paroles et de la chanson de charme.
Ça, c'était surtout chanson française.
Surtout chansons françaises, en fait. Et finalement, assez peu de biguines, parce que il aimait ça, mais sans plus. Il était plus sensible au côté grandes mélodies. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai grandi en écoutant aussi bien de la biguine que des grandes mélodies classiques. Parce que mes deux parents adoraient ces grandes mélodies classiques qui étaient souvent interprétées par des orchestres un peu de variété ou autre. Mais alors, ce n'était pas forcément la version classique, mais c'était la mélodie bel et bien. Et moi, j'ai été sensibilisé à ça. C'est pour ça que maintenant, j'ai toujours le goût de la musique classique et des grandes mélodies.
Et en musique anglo-saxonne,
Mais la
rien?
musique anglo-saxonne est entrée chez nous, si, elle est entrée chez nous par mon parrain. J'avais un parrain qui était fou de rock anglais. Et il nous a offert une compilation, et alors là c'est arrivé, et ça a été pour moi une révélation. Donc en fait, j'ai grandi avec, par mon père, toutes ces mélodies, la biguine, par ma mère, qui était plutôt des faubourgs de Pointe-à-Pitre, il y avait le Groka, donc la musique vraiment traditionnelle,
Oui.
enracinée, l'héritage africain. Par mes sœurs, elles adoraient James Brown, Aretha Franklin, Wilson Pickett, tout ça, donc tout le rhythm and blues américain. Par mon parrain, vous avez le rock anglais. Voilà, alors vous additionnez à ça le fait que moi j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans. J'écoutais FIP comme un fou et j'entendais des trucs de jazz et jazz rock et ça m'a rendu dingue. Donc j'ai commencé à étudier le jazz. Dès que j'ai fait trois notes, j'ai rencontré des musiciens africains comme Richard Bona, Paco Siri. On a monté des projets ensemble. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler la guitare, je me suis mis vraiment à fond. Puis j'allais traîner à Paris. Je traînais tout le temps avec Sylvain Luc,
Ah oui.
on était vraiment, c'était tout ce cercle, la bande de Sixsen, tout ça,
Oui.
tout le jazz fusion, et on mélangeait tout son complexe. Ce qui était vraiment intéressant là-dedans, c'était, il y avait toujours ce besoin de pousser les limites, mais surtout, des gens qui venaient de partout. Hein, quelqu'un comme Minino Garay, par exemple, Jean-Michel Pic, on était tous ensemble. Donc, vous avez des Argentins, des Maghrébins, des Africains du Nord, du Sud, de l'Ouest, des Béarnais, des. Et puis tout le monde était là. Je crois que c'est mes premières expériences vraiment de vivre ensemble, vraiment appliquées.
Mais tu as fait des études de musique, je crois.
Oui, j'ai fait des. Bah, ça m'a, tout ça, parce que bah, justement, ma curiosité a fait que j'ai voulu faire des études de musicologie.
Voilà.
Donc j'ai pu passer une licence de musicologie. Et après ça, bah, j'ai continué mon chemin de musicien. Mais c'est certain que ça m'a aidé. En termes d'ouverture encore, aller un peu plus loin dans la connaissance de la musique classique, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi des recherches en ethnomusicologie, des choses comme ça, tout un tas de discussions super intéressantes.
Et du coup, tu joues de quels instruments? Parce que tu joues de plusieurs instruments aussi, je crois. Pas que de la
Oui,
guitare.
disons que je suis vraiment essentiellement guitariste.
Oui.
Après, comme je fais aussi de la production, de la réalisation d'albums, ou simplement pour moi, bah, je vais être capable de pianoter un petit peu, je vais pouvoir jouer un peu de percussion, un peu de batterie, de faire semblant, mais disons que c'est très limité. Je me dirais pas batteur ou pianiste ou quoi que ce soit. Disons que je me dirais vraiment guitariste, chanteur. Et pour le reste, je bricole, quoi.
J'ai vu, hein, j'ai trouvé ça sur le net, je sais pas si tous les noms sont justes, mais parce que tu dis, bon, après j'ai travaillé comme ça. Mais en fait, moi j'ai vu que tu avais travaillé avec Gilberto Gil, Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Néné Cheri, Morcheeba, Manu Katché, Laurent Voulzy, Ayo, Swan Massie. Et alors avec toutes ces personnes-là, tu travaillais en tant que quoi là? Que guitariste ou plus côté
Alors,
production?
c'est variable, oui, plutôt en tant que guitariste. Alors après, ça va de Peter Gabriel avec qui on a fait genre deux concerts, à des gens avec qui j'ai fait une tournée entière. Voilà, et il y a des gens avec qui j'ai coécrit, par exemple Swan Massie sur l'album Mesquenil. On avait chanté la chanson en duo, je sais plus comment elle s'appelle, Tell Me Why. C'est une chanson que j'avais écrite pour elle. Puis il y a une autre chanson aussi que j'avais écrite pour elle. Et donc, en fait, j'ai joué sur l'album et on a fait un duo aussi. Enfin voilà, on a passé un peu de temps ensemble. Donc, c'est tout un tas d'expériences super intéressantes et enrichissantes de travailler avec ces artistes-là. Et puis, après, quand j'ai commencé à faire des choses vraiment pour moi, par moments, je pensais un peu à eux, à ce qu'ils avaient pu vivre. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que c'est intéressant de. Voilà, il y a toujours des choses, des leçons à apprendre en rencontrant des grands artistes comme ça. J'ai eu en tout cas la chance de travailler avec des gens dont j'achèterais l'album. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas des fois quand on
T'as pas
travaille en
eu à te
musicien de
forcer.
session. Voilà. C'était vraiment à chaque fois un plaisir. Donc, je suis très heureux de ça.
Gilberto Gil.
Ben Gilberto Gil, c'est pareil. On a fait genre deux concerts. C'était des concerts de, comment dire, caritatifs, mais faits avec énormément d'artistes différents. On avait une partie. Je crois qu'il y avait un concert qui était au Sénégal, dans un grand stade. Il y en avait en Suisse. Voilà. Donc ça,
Oui.
c'est vraiment un travail de guitariste où moi j'étais là, j'accompagnais avec d'autres musiciens. C'était un house band, comme on dit. Donc j'appellerais pas ça vraiment du travail avec lui. Je l'ai accompagné. Voilà, sur deux concerts, mais c'est pas vraiment le travail.
Alors, tu as accompagné pas mal de monde, mais aussi, du coup, quand vous avez fait votre premier album avec Delgrès, vous avez eu des belles personnalités aussi qui sont venues sur cet album chanter. Je pense
Bah,
à Sky
ça, c'est
Edwards,
lié
par
à
exemple, la
oui, Sky
super belle
Edwards.
voix de Morshiba.
Bah, Sky Edwards et toute l'équipe de Mortiba, en fait, c'est des amis que moi j'avais rencontrés à Londres à l'époque où je vivais là-bas. Et on était restés en contact. Et Ross, donc un des deux frères fondateurs du groupe, quand on a sorti les premières vidéos de Delgrès, il m'a contacté. Il m'a dit, putain, mais c'est super ce truc. Il me dit, là, on est en train de préparer un album et quand on fera la tournée, si tu veux bien, ce serait bien que je fasse les premières parties. Je dis, bah, ok, pas de problème. Et effectivement, genre un an et demi après, il m'appelle, il me dit, ouais, on fait la première partie. Et un soir, on est à la balance, on fait cette chanson, Serrez-moi plus fort. Et là, Sky vient comme ça, puis il dit, ah, cette chanson, elle est trop belle, j'adorerais la chanter avec vous, vous l'avez enregistrée. Je dis, non, mais quand on le fera, bah, si tu veux, t'es la bienvenue. Et voilà. Et donc, elle a insisté pour chanter en créole.
Ah oui, c'est ça, j'étais
Alors.
étonnée de découvrir qu'elle avait chanté en créole.
Ah oui, je lui dis, mais t'es sûr, tu veux pas faire en anglais? Elle me dit, non, j'ai trop envie d'apprendre, je préfère bien savoir ce que tu dis et puis chanter en créole.
Mais elle l'a fait
Non, mais
phonétiquement, elle parle pas créole.
oui, elle a fait, non, elle parle pas créole, non, non,
C'est
parce
ça.
qu'elle, c'est vraiment elle est anglaise, ouais. Et c'est vraiment des gens super, des grands. Et là, ils ressortent un album, ils ont sorti un single, et l'album qu'ils vont sortir là est super.
Oui, parce qu'elle a
Donc, ils
été
continuent
longtemps,
leur
elle avait
élan.
quitté le groupe et elle est revenue chanter avec
Oui,
Morshiba.
voilà, c'est ça. Et moi, je les ai connus, en fait, à l'époque où elle allait arrêter de travailler avec eux. Et après, quand elle est revenue, ben, voilà, on a
Oui.
commencé à faire des petits trucs comme ça ensemble.
Donc en fait, le jazz a une place assez importante quand même dans ta vie, si je comprends bien. Parce que ça amène souvent aussi le passage dans le jazz, une culture musicale qui est particulière.
Ben oui, ça amène déjà une espèce d'aisance, je trouve, sur l'instrument. Disons que moi, je sais qu'il m'arrive de rencontrer des musiciens qui, parce qu'ils n'ont pas forcément un bagage technique important, des fois se sentent un petit peu, pas tous heureusement, mais certains se sentent un petit peu frustrés de ça. Ils disent par moments, tiens, j'aimerais bien faire ça, puis j'y arrive pas et tout ça. Et le jazz, pour le jouer, vous êtes obligé de toute manière de travailler. C'est comme quelqu'un qui veut faire de la musique classique. Ben, on est obligé de se mettre dedans. Il faut travailler techniquement. C'est pas possible autrement. Donc, ça apporte ça. Et puis surtout, ça apporte une espèce d'ouverture. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe harmoniquement, vous savez ce qui se passe rythmiquement. Et du coup, ben, vous pouvez vraiment, en fait, rencontrer les autres musiciens facilement. Voyager et rencontrer les autres et vous sentir relativement à l'aise. Donc, moi, ça m'a offert ça. Cette possibilité vraiment de rencontrer n'importe quel musicien, pratiquement n'importe où, n'importe quelle culture, et de pouvoir converser pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Et voilà, après, je suis heureux d'avoir mis ça dans ma besace et d'avoir mis ça au service d'un. Cette liberté, ils ont au service d'un projet qui, lui, là, vraiment raconte mon histoire. C'est ça le. Voilà, c'est. Pour moi, c'est ce que j'ai rapporté de ça, surtout, c'est la liberté, la liberté de jeu.
Et alors le blues dans ton histoire à toi, qu'est-ce que ça représente? Parce que le blues, c'est plus évident, la présence du blues dans Delgrès.
Alors, le blues, c'est une rencontre tardive, en quelque sorte, parce que le blues, j'en ai joué en tant que jazzman. Quand on est jazzman, on joue du blues. Il y a toujours un moment où on joue un blues, c'est normal. Mais on le joue, je dirais, plus dans la forme que dans le fond, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Véritablement. De ce qu'on vit quand on est en France, là, le blues, ça ne fait pas partie de. Mais par contre, le blues qui rentre dans le ventre et qu'on ressent vraiment, Et je l'ai découvert grâce au DVD de Martin Scorsese. Il a fait une série de DVD qui traitait chacun d'un aspect du blues. Et il a confié chaque DVD, Martin Scorsese, à des réalisateurs. Bon, lui-même déjà. Ensuite, il y a Wim Wenders, Clint Eastwood, je ne sais pas, j'oublie les autres. Et donc, à chaque fois, un aspect du blues. Un ami m'a prêté ça et je me suis mis à regarder ça un jour. Et alors là, j'ai eu le déclic total. J'entendais ce truc-là et je comprenais enfin. En tout cas, je ressentais, parce que tout le monde me parlait du blues depuis bien des fois, les gens, les fans, etc. Mais à un moment, je ne voulais pas rentrer là-dedans tant que je ne le ressentais pas dans mes tripes.
Oui.
Et là, le truc a tapé super fort. Et c'est là que ça a commencé. Et que j'ai commencé à petit à petit relier ça à mes propres émotions. Parce que je voulais que ce soit authentique. Je ne voulais pas faire du blues de Chicago en étant d'Argenteuil. Quoi. Après ça, ce n'est pas un souci si on le fait. Mais je veux dire, en tout cas, moi, je n'y arrivais pas. J'avais besoin de relier ça à quelque chose de personnel. Et ça nous amène à ce moment où j'étais à Amsterdam, où à titre personnel, je vivais une phase difficile et je commençais à mettre le doigt sur cette espèce de fond de nostalgie, de blues que j'avais toujours dans ma vie. Et j'ai relié ce blues-là au blues afro-américain. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose, je ressens quelque chose. Donc, je vais pouvoir chanter.
Donc, tu dis que tu ne parlais pas créole. Aujourd'hui, tu chantes presque tout cet album en créole. Je crois qu'il n'y a qu'une chanson qui est en anglais. Comment s'est passée cette évolution?
En fait, c'était déjà... il y a bien des années de ça, déjà dans les années 90, j'avais commencé à faire ça parce que, comme je le disais, j'ai fréquenté pas mal de musiciens africains.
Oui.
Et j'étais vraiment sensible. J'adorais toute la musique d'Afrique de l'Ouest, mais aussi Afrique du Sud, Afrique centrale, notamment toute la rumba... zaïroises ou congolaises, et j'entendais leur voix, la façon dont ils chantaient, c'était tellement beau, comme une espèce de plainte éternelle, même avec des accords majeurs, des trucs qui faisaient vraiment voyager, et j'adorais ça. Et à un moment j'ai tilté, j'ai dit mais en fait cette rondeur, cette langue, en fait moi je l'ai à la maison, je l'entends tous les jours. Et c'est là que j'ai commencé à chanter, mais toujours pareil, parce que moi j'adore mélanger l'huile et l'eau. Donc j'adorais tout ce qui était le truc de police, ce genre de truc, ou l'espèce, la musique sud-af, des townships. Et je mélangeais ça musicalement avec du chant en créole. Et donc évidemment, on parle quand même d'années où c'était les Spice Girls qui dominaient le marché. Hein. Donc j'étais
c'est bien
complètement
de situer le contexte.
Voilà, donc juste pour te dire que t'as un mec qui chante en créole sur une espèce de mélange de police et de township music. Avec des mélodies pop rock et tout, c'était complètement, j'étais ailleurs. Mais par contre, c'était super parce que moi, j'avais cette sonorité africaine dans mon chant. Et je pouvais utiliser tout un tas d'images, je pouvais parler de ce que je ressentais par rapport à l'histoire de ma famille et autres. Je commençais déjà à rentrer là-dedans. Et pour moi, c'était vraiment génial, cet espace de jeu. Et donc, bien des années plus tard, après être parti vivre en Angleterre, j'ai fait un album en anglais, tout ça. Donc, on arrive à ce fameux moment où j'ai le blues,
oui,
véritablement. Et là, je renoue avec le créole parce que là, j'ai besoin de parler de choses qui sont vraiment, vraiment profondes, qui me touchent, des choses qui m'ont touché dans ma famille, dans la tendresse dans laquelle j'ai grandi. Voilà, cette espèce de fête permanente de la vie, mais avec un fond de déracinement, toutes ces choses-là, j'avais besoin du créole pour l'exprimer parce que la forme que j'avais commencé à utiliser, c'était le blues. Et que dans le blues, il n'y a pas beaucoup de mots, mais les quelques mots que vous utilisez, il faut qu'ils frappent très fort au niveau de l'image.
Oui,
et le créole permet ça.
Il n'y a pas beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup d'accords. Il y a une densité, du coup, qui est particulière.
C'est ça. C'est ça. On est vraiment dans la fabrication de nectar. C'est-à-dire que c'est hyper... C'est vrai, hein. On ne peut pas trop diluer les choses, il faut arriver et être très concentré et concis.
Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, dans Delgrès, on trouve aussi ce contraste assez fracassant de lumière et d'obscurité. Il y a quelque chose à la fois de très sombre dans ce son, et curieusement, il y a aussi une énergie qui bouscule ça et qui fait décoller, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé, dont vous êtes conscient, ou c'est mon ressenti juste?
Alors, on en est conscient, mais c'est un besoin. Et moi, j'analyse ça avec le recul comme étant vraiment l'expression en fait, de l'âme africaine ou créole. C'est-à-dire que quand on pense par exemple à la Nouvelle-Orléans, l'exemple le plus frappant, c'est ça, c'est ces fameux ces enterrements où finalement on est dans quoi ? On est dans la plus grande tristesse, la tristesse de la séparation, quelqu'un qui s'en va pour toujours. Mais sauf que si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous voyez des gens en train de danser dans tous les sens, vous dites, c'est quoi cette histoire ? Et c'est important parce que c'est cette manière pour nous de parler de choses qui sont parfois graves, mais toujours de les sublimer pour aller vers le mieux. En fait, et c'est hyper important que les deux se passent en même temps. Enfin, je trouve que c'est très africain, ce truc-là. Les gens dansent. Si vous comprenez pas ce qui se passe, vous arrivez dans un village en Afrique où les gens dansent et chantent pour un enterrement. Vous comprenez pas les paroles, vous connaissez pas la signification du rite. Donc, si on arrive d'Europe avec nos codes à nous et vous voyez juste des gens qui font la fête. Alors qu'en fait, c'est une cérémonie d'enterrement avec une certaine rythmique, des trucs, des codes très précis. Et donc, le côté gay ou le côté triste n'a pas la même signification selon qu'on vient d'une culture ou d'une autre. Et je dirais que dans les cultures, alors, je veux dire, de descendance africaine, il y a très souvent ces deux qui cohabitent comme ça, l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que il peut y avoir des choses très très sombres, ou même quelqu'un qui dit des choses de manière qui semble triste, alors qu'en vérité, il est en train d'exprimer juste quelque chose de très très fort et beau et de très heureux que la personne est en train de vivre. On a peut-être ça aussi un peu dans les chansons, dans certaines chansons traditionnelles en Europe aussi.
Oui.
Je pense à des trucs de musette, des chansons réalistes un peu.
Oui,
et réaliste, c'est un peu triste souvent, mais.
Et des pays de l'Est aussi.
Ouais, ouais. Très juste.
On va continuer sur Delgrès, mais est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots de Rivière Noire par rapport à là où on en est dans l'interview, justement ? Quelle est la place de Rivière Noire dans tout ça et comment ça s'est mis en place ?
Rivière Noire, c'était une rencontre. Vraiment, alors, il faut revenir à Swann Massy, en quelque sorte, parce que c'est grâce à Swann Massy que j'ai rencontré Jean Lamothe, le réalisateur de disques, qui, puisque j'avais écrit des chansons pour Swann, m'a invité à venir en studio pour les enregistrer et travailler avec lui. Et donc, on a super bien accroché et on a commencé à faire un petit peu de son ensemble et tout ça. Et puis, des années plus tard, je rencontre un monsieur en studio dont je fais l'album en tant que guitariste qui s'appelle Orlando Moraes. Il est à Paris et c'est un chanteur brésilien hyper talentueux, un mec avec un cœur énorme. Et pareil, on accroche bien. Alors, moi, je lui donne... À la fin des sessions, je lui dis, tiens, voilà, c'est le premier album que j'ai fait, c'est mon album très folk. Je lui dis, ben voilà, tu pars au Brésil, dans l'avion, écoute ça, puis tu me dis ce que t'en penses ou pas, c'est pas grave. Quelque temps après, il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai écouté ton album, je trouve super les compos et tout. Moi, j'aimerais bien qu'on écrive des trucs ensemble. Je dis, ok, pas de problème. Donc, on commence à écrire ensemble. Et puis, chemin faisant, il n'arrête pas de me parler de l'Afrique. Il me dit, ah, j'aimerais bien faire un truc avec l'Afrique et tout. Et moi, je sais que derrière moi, il y a un certain Jean Lamothe, qui a fait quand même deux albums de Salif Keita, et avec qui je travaille un peu tout le temps. Donc, je lui dis, on va organiser une rencontre. Donc, on se réunit, et là, c'est le coup de foudre. On se pose dans le studio de Jean, et vraiment, on se dit rien, on commence à faire de la musique comme ça, très naturellement. Et les chansons arrivent. Lui, Orlando, il improvise les textes, il chante comme ça. Ça vient, moi, les guitares, je me laisse aller à faire tout ce que j'aime, les trucs de Radiohead ou autre, mélanger avec des ambiances africaines, ça plane, c'est parti. Donc, on fait ça, on emmène ça en Afrique, on enregistre avec dans le studio de Salif Keita, avec des musiciens maliens. Et ça devient, contre toute attente, un groupe et un album. Et puis voilà, la suite, on la connaît. Hein, donc, et ce que je retiens de ça, c'est une incroyable aventure humaine, c'est un lâcher-prise total sur le fait de laisser la musique parler avant d'en parler.
Oui, ou de faire des stratégies de composition en amont.
C'est ça, de dire, ah, tiens, j'aimerais bien que ça fasse ça, j'aimerais bien que ça fasse ci, ça fasse ça. Là, c'était juste, on laisse les choses arriver. Donc ça, c'était vraiment fabuleux. Pour moi, ça reste un grand moment. Et ça me conforte vraiment dans l'idée de rencontre et de ne jamais complètement se fermer. Des fois, on peut, parce qu'on trouve une formule, quelque chose qui fonctionne bien, soit humainement ou artistiquement, on dit, tiens, je vais pouvoir, tu sais, je tiens quelque chose, je vais le répéter et puis le décliner, etc. c'est bien, mais je trouve que c'est hyper important de rester ouvert aux rencontres. Et même nous, au sein de Delgrès, on reste vraiment dans l'idée d'échanger avec des gens, d'explorer d'autres territoires. Il faut offrir aux gens des voyages.
Et ça va continuer? Il y a d'autres albums prévus ou c'était juste un moment dans le temps, cette rencontre?
Ah non, non, on a envie de faire d'autres albums, on a plein d'envies. Je sais que Baptiste et moi, notamment, on adore la folk, tout ce qui est folk roots. Mais j'aime aussi beaucoup la musique baroque, par exemple. C'est un truc qu'on a en commun avec Raph. Parce que la musique baroque, il y a un côté traditionnel aussi. Tu as remarqué, par exemple, que dans La Peine, il y a une harpe. Il y a un côté un
Ah
peu
non?
bretonnant, peut-être dans la dernière chanson de l'album. Ouais, il y a un côté un peu. Nicolas Quéré qui a co-réalisé l'album avec nous, et Brestois. Et moi, j'adore, enfin, Baptiste est nantais, donc pareil aussi, on adore la musique celtique. Et là-dedans, il y a des talents, il y a des personnes à les rencontrer là-dedans, des gens avec qui faire résonner les sonorités. Donc, il y a ça, mais évidemment, il y a aussi des gens qu'on adore. On a rencontré Fantastic Negrito à Paris. Voilà, on est toujours en contact avec lui. Pourquoi pas aller faire les choses avec lui? Après, c'est ça, on ne sait pas. Demain, on rencontre quelqu'un qui joue de la viole de gambe et puis c'est parti. Hein.
L'aventure continue donc.
On peut. Ouais, complètement.
Sur cet album là de Delgrès, tous les textes donc sauf un sont en créole. Est-ce que alors du coup, moi j'étais un petit peu frustrée puisque je ne parle pas créole.
Oui.
Donc est-ce que tu peux nous parler?
Ils sont sur le site internet normalement. On va les mettre sur le site internet en anglais et en français pour que les gens puissent aller voir les traductions.
Bon, mais là, pour l'instant, j'ai pas eu la traduction. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon pour nous quelques chansons pour donner un peu le ton et que nos auditrices et auditeurs puissent avoir une idée des sujets que tu abordes dans cet album?
Oui, au niveau des thèmes, alors déjà, le nom même de l'album et cette fameuse chanson 4 heures de matin, en fait, ça fait référence à l'arrivée de mon père en 58 en métropole. Donc, il arrive après, c'est ça, c'était à peu près une semaine de bateau. Il arrive en France, il débarque au Havre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tourné le premier clip au Havre.
Oui,
et puis de Havre,
on va en reparler.
Il va direct, voilà, du Havre, il va à Argenteuil, et il trouve le premier boulot qui se présente, même s'il était électricien de formation. Il se retrouve à décharger les caisses pour la SNCF, donc il se lève à 4 heures du matin. Et évidemment, il fait froid, il n'est pas habitué, donc c'était un peu compliqué pour lui, mais quand il m'en a parlé, il ne m'en parlait pas avec. Comment dire, avec une espèce de douleur ou de rancœur ou autre, il me disait, voilà, c'était pas facile. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il est venu, il a donné une chance à sa famille de vivre autre chose. Et donc, il était tout à fait heureux de ça. Donc, cette chanson, à travers son histoire à lui et son expérience, c'est une manière pour nous de rendre hommage à toutes ces personnes, justement, qui ne s'écoutent pas. Des gens qui vont arriver de pays qui n'ont rien à voir avec le nôtre et qui remettent tout en jeu. Ils remettent toute leur vie à plat, simplement pour donner une chance à leur famille. Et puis, ils lèvent les manches et ils y vont. Donc, lui, il se levait à 4 heures du matin. Il y a des gens qui se lèvent à 4 heures d'après-midi. Mais c'est pareil. C'est la même intention, c'est la même abnégation. Et voilà, c'est à ces gens-là qu'on rend hommage dans cette chanson. Et l'ensemble de l'album va tourner autour de ces valeurs-là, en fait. Ce sont des valeurs de quoi? De courage, de résilience. Il y a du déracinement.
Oui.
Et puis, il y a aussi le fait de dénoncer certaines injustices, des choses qui, aujourd'hui, encore nous touchent. Voilà, on est bel et bien, on était déjà là-dedans avec le premier album. Moi, je dis, quelque part, c'était quand même dénoncer une grosse injustice qui était le rétablissement de l'esclavage et tout ce qui allait avec. Et ben, aujourd'hui, on va dénoncer la façon dont certaines conditions qui étaient déjà là en 1802, ben, perdurent aujourd'hui. Il y a encore de l'esclavage moderne aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a une forme d'aliénation liée au travail, même si on n'est pas dans l'esclavage, on est quand même dans des choses qui sont extrêmement subies pour beaucoup de gens. Voilà, donc on va dénoncer petit à petit toutes ces petites choses-là, mais comme tu le disais tout à l'heure, on est dans l'ombre et la lumière. Donc, avec chaque chanson, vient sa part de lumière, et cette manière de dénoncer ça, c'est pour mieux dire, voilà, on est ensemble. Ben, faisons quelque chose avec ça et qu'on a la possibilité de le faire. Alors, on n'est surtout pas dans un constat triste, plutôt dans un constat de hey, on a la possibilité de bouger, on peut faire quelque chose.
Donc d'avancer.
D'avancer, oui, c'est vraiment important. Et voilà, enfin, donc, c'est différents thèmes qui sont abordés dans, dans l'album.
Et le titre Semola, S-E-M-O-L-A.
Ouais, en fait, ça se traduira en français Semola, oui. Semola.
Comme ça se prononce, quoi. C'est la façon voilà. d'écrire qui change. Oui.
À peu près. Voilà. Bah, ça, c'est un titre qui fait plus directement allusion au problème de. Comment dire, d'intolérance vis-à-vis de la différence auquel ben, les enfants, quand ils arrivent à l'école, peuvent être confrontés. Là, je pensais plus précisément à ma grande sœur quand elle est arrivée en métropole avec mon père et qu'elle était, elle avait 10 ans et qu'elle se retrouvait une des seules blacks dans la cour de récré et que c'était pas forcément facile. Donc, moi, j'ai imaginé cette conversation entre elle et mon père parce que elle m'a fait part des difficultés qu'elle avait eues, mais elle en parlait pas beaucoup.
Oui.
Comme c'est souvent, elle a toujours beaucoup de pudeur, mais suffisamment pour que je comprenne que ce n'était pas facile pour elle. Mmh. Et donc, j'ai imaginé cette conversation entre elle et mon père, où mon père lui demande, mais dis-moi ce qui s'est passé, dis-moi ce qui s'est passé. Et qu'elle, elle rentre à la maison et elle ne peut même pas parler, parce que ça l'a tellement touchée. Donc, lui dit, ces mots-là, ils me brûlent la peau. Ces mots-là restent bloqués dans ma gorge, donc je ne peux pas parler.
Les mots qu'elle a entendus.
Ces mots qu'elle a entendus. Oui. Voilà. Ces mots qui lui ont brûlé la peau, ces mots qui restent coincés dans sa gorge, qu'elle ne peut pas exprimer parce que c'était trop dur pour elle de ses 10 ans.
Oui.
Du coup, de ses 10 ans-là, elle n'avait pas à parler de ça.
J'espère qu'aujourd'hui, elle va mieux.
Oui, elle va mieux. De toute façon, ça a toujours été une battante. Surtout elle, ma famille, c'était vraiment celle qui est capable de vraiment. Comme on dit, une grande gueule, et qui est capable de remettre tout le monde à sa place comme il faut, mais même de remettre tout le monde à sa place et de se défendre, de dire bon, ben, je vais pas être une victime et je vais avancer, je vais foncer. Ben, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et quelque part, évidemment, il y a toujours une petite part de tristesse qui va avec ça, même si on est capable de réagir. Donc, oui, dernièrement encore, on en parlait. Elle me dit, bon, tu sais, moi, j'ai vécu ça jusqu'à. Maintenant, elle est à la retraite. Hein. Elle me dit, j'ai vécu ça jusqu'au bout, même au sein de mon travail. Voilà. Et je me suis toujours battu, j'ai toujours regardé ça, pris ça un peu de haut, et je suis toujours sorti la tête haute.
Oui.
Mais quand même, c'était présent.
Alors, le titre « Just for me », parce que ça, c'est le seul titre qui n'est pas en créole, qui est en anglais, et qui est un peu différent musicalement des autres titres, qui a un clip aussi assez amusant. Qu'est-ce que c'est ce titre ?
Alors, Just Vote for Me, c'est notre petite, c'est la réponse un petit peu par rapport à Monsieur Président. Voilà, quand je parlais
de
mettre le doigt sur.
Il y avait un titre qui s'appelait Monsieur Président sur le premier album,
oui.
Avec un clip voilà. Déjà d'ailleurs particulier.
C'est ça. Et donc, oui, c'est notre réponse à ça. C'est quelque chose sur lequel on a envie de mettre le doigt parce que finalement, toutes ces choses qui se passent, toutes ces injustices et qui perdurent, toutes ces situations-là, eh ben, régulièrement, on a quand même des personnes qui se présentent au suffrage des électeurs et qui disent qu'ils vont régler tous ces problèmes. Et depuis longtemps.
Oui.
Et à chaque fois, les problèmes restent quasiment les mêmes parce que bah, voilà, soit ils ne sont pas très inspirés, soit ils font ce qu'ils peuvent et puis des fois ils se rendent compte que bah, ce n'est pas si facile que ça. Mais en attendant, les promesses sont toujours là parce que ça fait partie du jeu. Donc du coup, il y a une espèce de petit jeu comme ça qui se fait et c'est normal, ça fait partie du game, comme on dit,
oui.
De faire des promesses, on sait qu'elles ne seront pas tenues. Quelque part, les électeurs, ils savent bien que ce ne sera pas tenu non plus, mais bon, ils ont envie d'y croire. Alors, on fait tous la petite danse comme ça. Mm. Et alors, nous, de temps en temps, on aime bien dire, bon, quand même, y a des gens qui y croient quand même vraiment. Ce serait bien de faire des vrais efforts pour tenir vos promesses. Voilà, donc c'est pas grand-chose parce que c'est notre petite voix dans cet océan de... hyper complexe, c'est pas grand chose, mais de temps en temps, quand même, on aime bien le dire. C'est pour ça qu'on le dit toujours avec le sourire, un peu, voilà.
Oui,
c'est qu'on
ne
changera pas grand chose, mais un peu décalé parce que on est obligé de prendre ça un peu avec une certaine légèreté, parce que sinon, faut entrer dans le vrai militantisme. Enfin, il faut vraiment s'engager, entrer. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire, c'est ça, c'est faire de la musique. Donc, on peut de temps en temps interpeller les gens comme ça, mais toujours à la cool. Hein,
oui.
Ne pas forcer, en restant tranquille et avec le sourire.
Et j'aimerais bien que tu nous parles du clip de Aléa. Vraiment super beau clip. Moi, déjà, j'adore le titre. Et en plus, il met en valeur l'ambiance et le rythme de ce titre. Et du coup, j'avais envie d'en savoir plus, que tu nous racontes un peu.
Merci beaucoup.
Comment vous l'avez imaginé, ce clip, et comment s'en est arrivé à ce résultat-là ?
Eh bien, oui, déjà, merci beaucoup. Je suis heureux que ça te touche comme ça, parce que c'est vrai que c'est un clip, c'est une chanson qu'on adore. Et en fait, on a travaillé pour ce clip avec les gens de Cowboys, qui sont des gens de Nancy, qui avaient déjà travaillé sur le clip de Can't Let You Go, sur l'album précédent. Mm-hmm. Un clip dans lequel on voyait un tas de cartes qui s'abattaient comme ça, et on voyait les paroles de la chanson qui défilaient. Et c'est des gens qui sont hyper créatifs, et dans cette manière de travailler avec un gimmick, et d'aller jusqu'au bout. Donc quand on a fait appel à eux pour cette chanson-là, ils ont dit, mais tiens, pourquoi on ne vous mettrait pas sur un tarmac ? Pourquoi ils ont pensé à ça ? Peut-être à cause de l'idée de séparation qui vient avec la chanson. Parce que vraiment, Aléa, ça parle des aléas de la vie, ce qui revient à être des aléas, mais qui en fait est quelque chose avec lequel on doit tous dealer, qui est la séparation. Que ce soit pour quelques jours, deux mois, pour toujours. Et voilà, à chaque fois, il y a de la souffrance. Et il faut surmonter ça parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Il faut faire avec. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce morceau-là Aléa. En plus, on aime bien aussi la sonorité parce que ça veut quand même dire c'est des aléas, mais ça veut aussi dire il faut y aller. Hein.
Oui.
Allez, continuez. Quoi. Voilà. Et donc, ils sont partis sur cette idée de cette espèce de voyage comme ça sur un tarmac. Et on les a suivis dans l'idée de faire venir tout un tas de gens et puis de fêter le fait que tant qu'on est ensemble, faut en profiter. Quoi.
Oui, mais il y a deux autres aspects que je trouve vraiment intéressants. C'est déjà le mec qui danse. Donc, ouais. Comment il est arrivé, comment il y a eu cette idée-là ? Je trouve qu'il donne vraiment un relief à la chanson, à la musique et au rythme qui est vraiment prenant.
Oui, ça, c'est encore une de leurs idées, franchement. Et nous, quand ils nous ont proposé ça, on a dit, mais c'est super, c'est fantastique. Parce que ce personnage qui est là tout seul et qui se met là sur le coup à danser...
Oui, d'une façon un peu saccadée, qui colle à votre univers, quoi, vraiment.
Oui, ça colle à notre univers, et puis surtout, ça colle vraiment au thème, parce que à partir de là, on peut tout imaginer, on peut imaginer que dans cet avion qui est passé, il y a une personne qu'il aime, qui est partie, et puis il se retrouve dans cette vie, et puis il décide à un moment, où là, ça le prend, il dit, je vais danser cette vie, en fait, malgré tout, je vais danser avec, et puis les autres le rejoignent, et tout ça, on a adoré leur travail, leurs idées. Ça collait tellement bien à ce qu'on voulait faire dans ce titre.
Et le clip de 4 heures du matin, qui a vraiment un univers aussi qui colle bien. Je ne sais pas si c'est la même équipe qui a fait ce clip, mais...
Non.
Voilà, où là, on est dans un univers de... Je te laisse raconter. Au Havre, je crois.
Oui, là, on est vraiment au cœur de de l'histoire, à la fin de mon histoire familiale, l'histoire de cet album. Donc, qui est... En fait, une porte d'entrée. Cette chanson est une porte d'entrée dans l'album. C'est aussi ça correspond à la porte d'entrée de ma famille en France.
Oui, en métropole.
Et voilà. Mmh. Donc, évidemment, il y a un hommage, comme on dit, à tous ceux qui se lèvent tôt. Donc, on a voulu avoir des gens, des ouvriers, ceux qui travaillent sur le port et qui font en sorte que tout fonctionne dans cette société. Alors eux, mais voilà, tous les gens qui bossent dur et qui font en sorte que ce soit plus facile pour nous tous.
Au milieu de ces gros barils là de...
Ah oui, les containers, ça c'est, il y a un truc visuel, parce que ça représente vraiment cette arrivée, le port pour nous c'est important, la mer dans l'histoire de Delvres, parce que c'est l'Odyssée, c'est le voyage, c'est le départ, l'arrivée, et donc le port ça représente vraiment ça, et tous ces containers, ça représente toutes ces marchandises qui voyagent à travers le monde, et de se retrouver là-dedans c'était fabuleux déjà, le tournage, parce que... Vous êtes au milieu de ces espèces de trucs, c'est hyper impressionnant. Et donc là, c'est Gaëtan Châtaignier qui a travaillé, qui est un réalisateur fantastique avec qui on avait fait le clip de Montjoly. Là, on est sur le radeau, là. Et Gaëtan, alors là, c'est un autre truc. C'est pour ça qu'on adore aussi travailler avec des réalisateurs différents, parce que ils vont tous à un moment ou à un autre extrêmement bien comprendre ce qu'on a voulu dire dans la musique et proposer des choses qui sont en accord avec ça. Et surtout, ils arrivent très, très bien à le traduire. Et Gaëtan, et toute son équipe, ils ont fait un boulot fantastique. Pour recréer cette espèce d'ambiance. On a tourné deux nuits, on a très peu dormi, c'était fou. Les pompiers locaux ont mouillé le sol pour que les lumières se reflètent dedans, pour donner cette espèce d'ambiance de nuit fabuleuse. Attendu le lever de soleil pour choper le moment où le soleil se lève précisément. Eux, ils n'ont pas dormi de la nuit. Nous, on a dormi peut-être 2-3 heures, mais eux, ils n'ont carrément pas dormi du tout. Enfin, c'était des fous.
Mais le résultat en valait la peine.
Oui, ça en vaut, oui, parce qu'on s'est vraiment retrouvés dedans. C'était vraiment ce qu'on voulait véhiculer. Voilà, les figurants sont des gens du Havre, la plupart, qui étaient tellement heureux d'être là. En plus, ça faisait plaisir comment ils ont dansé, ils étaient là. Et on a vécu un vrai moment avec eux aussi. C'est super. L'acteur Jérôme Boyer, un mec super du Havre aussi. Et on a donc une petite histoire comme ça qui se crée avec la ville du Havre, puisque après on a fait aussi le clip de ACAC dans le Magic Mirror du Havre. Et voilà. Et on va aller y jouer aussi assez souvent.
Et il y a la présence du feu aussi, qui est quand même assez récurrente dans l'univers de Delgrès, qui est d'ailleurs sur la pochette de ce nouvel album. Pourquoi le feu,
Le feu, parce que ce fameux réveil, en fait, il est dans le clip. Hein, je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, quand il se lève, l'acteur, il appuie sur un réveil, et c'est ce réveil qui, en fait, est un vieux réveil vintage qu'on a trouvé grâce à mon fils et à sa petite amie. Enfin bref, elle avait ça. On voulait un réveil vintage qui est cette allure-là, donc on l'a pris dans le clip. Et après, c'est le photographe Bobby, qui est un mec super, qui a fait toutes nos photos de presse et tout ça, et qui, lui, était sur le tournage, qui dit à un moment donné, parce qu'on parlait pochette d'album, il dit, mais ce réveil, moi, j'y mettrais bien le feu. Et là, je dis, ouais, en fait. Parce que finalement, qui n'a pas envie de mettre le feu à son réveil matin? À un moment ou à un autre. Hein, on tape dessus fort, voilà. Donc, la symbolique était toute trouvée. Et donc, on a fait le photoshoot dans mon jardin, on a mis le réveil sur un piédestal et on y a mis le feu, vraiment.
Oui, composition de faite sur Photoshop.
Ah non, d'accord. C'est vraiment... Et donc, il a fait évidemment des centaines de photos et à la fin du shoot, déjà, il me montrait cette photo-là et me disant, tiens, celle-ci, il y a un truc. Et je dis, ouais, tiens, il y a un truc. Après, tout le monde a délibéré, toute l'équipe, et on est finalement arrivé à ça. Et je sais pourquoi elle m'a tapé dans l'œil. En tout cas, je l'ai découvert bien longtemps après. C'est quand tu regardes cette photo et que tu regardes la statue de la liberté, la flamme de la statue de la liberté, tu regarderas, tu verras que c'est la même forme.
Ah, la forme de la flamme. Ah, mais
la
alors,
forme
tu,
de la
tu
flamme.
Parles de la photo devant, parce qu'il y a deux photos. Il y en a une derrière où il est quasiment carbonisé,
devant.
Là.
Voilà, ça c'est vraiment la fin. Mais si tu regardes la photo.
Ah oui,
voilà, devant.
Oui, d'accord.
Voilà,
la flamme avec le petit.
Regardes, là, oui. C'est ça. Et tu regardes la statue de la flamme de la liberté. Alors, c'est bien après, je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, c'est trop puissant.
D'accord, mais dis donc, je suis heureuse de t'avoir posé la question parce que je vois qu'il y a beaucoup de sens caché dans tout ça.
Oui, et puis après, c'est comme on dit toujours, il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on peut faire, et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas.
Oui.
La forme de cette flamme, le fait que, on l'aime bien comme ça, c'est comme ça. Mais c'est bien, justement, cette part qui n'est pas maîtrisée, justement, c'est la beauté aussi. C'est comme la musique, c'est comme tout.
Voilà. Alors, donc, cet album, il vient de sortir. Il est disponible. Il a été, je crois que la sortie du coup a été, comme tout le monde, retardée plusieurs fois par rapport au
à
toute cette année
fois,
difficile de Covid, de confinement, à répétition, etc. Donc là, ça y est, l'album est disponible, un bel album à acheter. Et puis, qu'est-ce qu'il en est alors? Est-ce que vous avez des perspectives concernant les scènes, puisque en fait, personne n'en a vraiment, mais on essaie quand même d'espérer, d'y penser, de prévoir un minimum.
Oui, il y a quand même des choses qui sont prévues, notamment on sera au Festival Chorus le 11 juillet.
Chorus des Hauts-de-Seine.
Pour les Chorus des Hauts-de-Seine, pour les Parisiens. On a aussi, on sera présent cet été au Festival de Montreux. Voilà, il y a deux, trois petites choses comme ça qui commencent à arriver. Peut-être à Marciac aussi, on parle de Jean Lépin. Voilà, il y a pas mal de scènes qui sont finalement des assez grosses scènes. Et je crois qu'ils ont la capacité, en tout cas, de pouvoir accueillir du monde avec suffisamment d'espace.
Oui, pour que les distanciations, si on en est encore à ces restrictions-là.
Et surtout, on donne rendez-vous à tout le monde le 30 novembre au Trianon, à Paris. Parce que là, ça va être la grosse fiesta. C'est-à-dire que là, normalement, le 30 novembre, on croise les doigts, on devrait être capable d'être dans un vrai concert. Et là, on va pouvoir vraiment accueillir les gens dans notre univers. Donc, le 30 novembre au Trianon, je pense que ça va être quelque chose. Voilà.
Je vais noter tout ça dans la description du podcast. Je mettrai le lien, un petit player pour écouter, les clips. Donc, si vous écoutez, parce qu'en fait, il y a deux moyens d'accéder au podcast de Sosuite Planète. Il y a ceux qui écoutent sur les applications de podcast. Donc, okay. Si vous êtes en train d'écouter, chers amis auditrices et auditeurs, sur une application de podcast, je vous invite à cliquer sur les liens pour aller sur la page de Sosuite Planète. Peut-être que vous écoutez déjà directement sur Sosuite Planète sur le site, où là, contrairement aux textes qui sont sur les applications de podcast sur lesquels on ne peut pas mettre d'image et pas mettre de vidéo, sur la page de sosuiteplanète.com, sur la page dédiée au podcast de Delgrès, vous pourrez regarder les vidéos. Sinon, vous pouvez aussi aller les chercher sur YouTube. Vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, évidemment, aussi de streaming. Il y a aussi une page Facebook. J'ai vu que vous étiez assez actif sur Facebook, oui. Sur Twitter. Je crois que je ne suis pas allé voir Instagram.
Instagram aussi, oui, on est là. On est là, voilà. On est partout.
Donc, ça, où on peut. Ça permet de suivre un peu toute votre actualité, s'il y a des concerts qui se, ouais. Qui se précisent. Et puis, maintenant, je souhaite une très belle vie à vos groupes, puisqu'il y a plusieurs, Rivière Noire, Delgrès et pas merci. Mal de projets. Et puis, longue vie à cet album et à Delgrès.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli. D'avoir discuté.
Merci beaucoup Pascal, c'était un plaisir, je suis ravie d'avoir pu parler de Delgrès, j'espère que ça aura donné envie à tout le monde d'aller tout de suite écouter votre bel univers et puis j'espère une prochaine fois et surtout sur scène.
Merci, à bientôt.
Merci.
Oui, avec plaisir.
Au revoir.
On croise les doigts. Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sosuite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sosuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt.